Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je dois dire que je me faisais vraiment une joie d'être en personne parmi vous ce dimanche à l'église libre de Cannes où je compte de nombreux amis, mais malheureusement le nouveau confinement en a décidé tout autrement. Et je dois dire qu'en fait toute l'année 2020 a pour moi été un cinglant rappel de ce passage dans Jacques 4, 13 et suivant, qui nous dit: « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » C'est vraiment ce que nous avons vécu cette année. Au début de l'année, nous avions des projets de voyage, ma femme et moi, pour aller rendre visite à des églises Calvary-Chapelle en France. Nous avons pu en faire en janvier, puis en mars, mais très vite, le premier confinement est intervenu. Et puis ensuite, le déconfinement est arrivé. Nous avons pensé retrouver la liberté et pouvoir voyager à l'étranger. Nous avions prévu un voyage en Autriche et peut-être même aux USA, mais nous avons dû annuler ces projets. Le 2 octobre 2020, nous avions, en tant qu'église Calvary-Chapelle, réservé les enfants à la montagne à Saint-Martin-de-Vésubie. Mais en fait, nous avons annulé cette retraite prévue, parce que les restrictions du Covid faisaient qu'on pouvait emmener seulement la moitié du monde qu'on aurait aimé emmener. Eh bien, nous en a pris, Dieu merci, puisque le 2 octobre, c'est le fameux jour de la tempête Alex, qui a détruit les deux tiers du terrain, causé des dommages et des pertes de vie incalculables ou très, très étendues dans les trois vallées de l'arrière-pays niçois. Suite à ça, nous avons eu une attaque terroriste à Nice. Nous sommes retrouvés avec de la police qui surveillait notre dernier culte. Et puis, reconfinement, rebelote, on pourrait dire. Et donc maintenant, on a appris à dire si Dieu veut. Si Dieu veut, nous passerons Noël en famille. Mais seulement si Dieu veut, rien n'est sûr. Bref, nous vivons dans une atmosphère assez anxiogène et cette incertitude conduit facilement à l'inquiétude. Elle est pesante sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif. Le moral des Français est en berne, les dangers de l'épidémie, de la crise économique sans précédent. Et donc, il est même au niveau de l'atmosphère internationale, avec les crises des élections aux États-Unis, des menaces dans différentes parties du monde, les guerres, les rumeurs de guerre, il est vraiment facile de se sentir découragé, déprimé, débordé, voire submergé par nos circonstances. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un remède qui nous est prescrit par Docteur David, le psalmiste, dans l'un de ses textes. Et c'est précisément lors d'un séjour aux enfants à la montagne que le Seigneur m'a rappelé ce passage qui est vraiment un petit trésor. Spurgeon, le grand prédicateur anglais du 19e siècle, l'appelait une perle rare, petite mais précieuse. Et je me trouvais donc dans le haut de la rivière qui jouxte l'ancienne propriété des enfants à la montagne, là où l'eau est pratiquement à la hauteur du terrain. Et je méditais, je m'imprégnais de la beauté des lieux et je voyais en fait ce beau rocher. Et j'ai dit, ce rocher est splendide, il est même. Il est plus haut que moi. Et dans ma mémoire, s'est fait le rapprochement. Oui, il y a un passage dans la Bible qui dit que il y a un rocher plus haut que moi. Et rapidement, j'ai consulter Google pour me rappeler du passage duquel cette pensée était tirée, et c'est justement précisément le texte dont je vais vous parler, c'est le psaume 61. Nous allons donc lire ce psaume 61 et je vais utiliser la version second 21 pour le faire. Au chef de chœur, sur instrument à cordes, de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente, me réfugier sous l'abri de tes ailes. Pause. Oui, c'est toi, ô Dieu, qui écoute mes vœux, tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours à la vie du roi, que ses années se prolongent de génération en génération, qu'il siège éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Ce texte était donc fait pour être chanté avec l'accompagnement d'un instrument à cordes. Et ce qui est remarquable, c'est que nous avons donc un recueil de chants de louanges qui est inspiré divinement. Aujourd'hui, nous aimons chanter des cantiques. Certains se réclament de textes bibliques. D'autres sont plus humains dans leur composition. Ils donnent des motifs de joie, de vérité, etc. Mais j'aimerais bien faire remarquer qu'il y a trois grandes différences entre les psaumes divinement inspirés et les cantiques et les chants composés par l'homme. Dans les cantiques, dans les chants, il n'y a presque jamais de mention d'ennemi, alors que dans les psaumes, il est souvent question des ennemis qui menacent l'enfant de Dieu. Dans nos chants, nos cantiques, on parle peu des épreuves de la vie, alors que c'est l'essentiel de ce qui fait la trame des psaumes. Et enfin, dans nos chants, il est rarement question de douleur ou de larmes. Les psaumes sont remplis de pleurs, de douleurs, de deuil. Et ici, on voit que David parle de ses ennemis, il parle des épreuves de la vie, il parle de sa douleur. Et en même temps, alors qu'il s'adresse à Dieu, Dieu lui inspire une confiance renouvelée qui fait qu'il termine par un chant de gloire à Dieu et de louanges joyeuses et pleines de confiance pour l'avenir. On pourrait intituler ce message « Le rocher plus haut que moi ». Et dans ce texte, David nous dit que faire lorsque nous sommes confrontés à des problèmes insurmontables. Il va nous montrer plusieurs éléments dans notre réponse. Il va y avoir d'abord la prière, ensuite le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, puis renouveler notre confiance en ce qu'il va faire pour nous, et enfin le célébrer par un temps de louange. Tout d'abord, la prière. Quelle est-elle? Ô Dieu, c'est Elohim, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi, conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Écoute mes cris, Le mot traduit par cri fait référence à un cri de douleur, de chagrin très fort. Et David demande à Dieu non seulement de l'entendre, mais de l'écouter. Il ajoute l'idée, sois attentif à ma prière. L'idée, c'est j'attends une réponse de ta part, Seigneur. On peut prier sans grande conviction, par formalité, par formalisme, parce que chaque jour on doit prier, mais le cœur n'y est vraiment pas et on n'établit pas une communication réelle avec Dieu. Lorsque l'on souffre et que l'on s'adresse à Dieu, on veut vraiment qu'il nous écoute, et on attend une réponse. Et ça, c'est toute la différence avec les prières formelles. C'est de faire que on va insister, on va répéter la prière, on va y penser, on va y revenir dans la journée, dans la nuit, dans notre lit. On va vraiment demander à Dieu de répondre. Et il dit qu'il est des extrémités de la terre. Dans ma faiblesse, je crie à toi. L'expression dans ma faiblesse est traduite de façon différente dans les versions bibliques disponibles en français, par exemple. Ça peut être dans ma faiblesse, mais un autre dit quand je n'en peux plus, une autre dit quand je suis découragé, l'autre c'est le cœur défaillant, le cœur abattu dans la Colombe, la version de Louis II, quand le cœur me manque, dans l'abattement de mon cœur. Je crois que oui, cette faiblesse, c'est vraiment le cœur qui est abattu. On n'a plus du tout confiance et on ne sait pas exactement quelles étaient les conditions dans lesquelles le psaume a été écrit par David. On sait que David a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, qu'à chaque fois il répondait par la prière et souvent il répondait en inscrivant sa prière sur le parchemin. Et donc ces psaumes sont autant de situations rencontrées par David ou les autres psalmistes, dans lesquels ils déversent leur cœur devant Dieu en le suppliant d'intervenir. David notamment avait, on pense qu'il s'agit peut-être de la période de sa vie où il fuyait son fils Absalom. Absalom, son fils chéri, qui avait tué son demi-frère Amnon parce que celui-ci avait abusé de la sœur d'Absalom, de la demi-sœur d'Amnon, qui s'appelait Tamar. Et il avait dû fuir le royaume, mais il s'était rebellé contre son père, qu'il aimait pourtant plus que tous, et il avait décidé de prendre le pouvoir, d'essayer de gagner le pouvoir sur son père. Son père aurait pu réagir et répliquer par une bataille militaire, mais il avait préféré s'enfuir. Et en même temps, c'était quelque chose de très douloureux pour lui de savoir que son fils chéri le détestait à un tel point. Et donc, son cœur est abattu. Le mot en hébreu est le mot qui signifie être faible, devenir de plus en plus faible. L'idée, c'était de se vêtir de noirceur, de se draper dans du noir, comme pour dépérir, pour défaillir, pour s'étioler. C'est le terme qui est utilisé lorsque les assiégés à Babylone, par Babylone, n'avaient même plus de nourriture. C'est un terme descriptif, pardon, un terme descriptif de la personne qui regarde ses circonstances et devient alors conscient de sa séparation d'avec Dieu. Le résultat est tel que la personne est débordée, enterrée, noyée, submergée, engloutie. C'est un mot très fort dans ma faiblesse. Je crie à toi, dit-il au verset 3. Encore une fois, le mot de crier qui est différent des cris du verset 2, c'est un mot très fort qui veut dire que c'est un bruit très très fort où on crie de façon urgente pour recevoir de l'aide. C'est un appel au secours fort et désespéré. Et là, il demande à Dieu de le conduire sur le rocher trop élevé pour moi. Rocher trop élevé pour moi. Qu'est-ce que ce rocher? Qui est ce rocher? On a plusieurs passages dans la Bible qui nous l'expliquent. En fait, sans quitter la page où vous êtes, vous pouvez sans doute regarder le psaume suivant, le psaume 62. David nous explique, nous donne la réponse. Il nous dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. » Un peu plus loin, au verset 6 du même psaume, il dit « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. » Le rocher, c'est donc Dieu, mais on va même plus loin lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, et l'on voit que Paul, dans 1 Corinthiens 10, 4, parlant des anciens, des ancêtres qui ont traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et verset 4, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Donc ce rocher trop élevé pour moi, c'est Christ. La traduction dans la Septante, donc cette version grecque de l'Ancien Testament, traduit ce mot « rocher trop élevé pour moi » par « Petra ». Et on se souvient de l'entrevue entre Pierre et Jésus, où Jésus lui demandait qui il était, et Pierre, par la révélation de Dieu, lui indiquait qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondait « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Mais en fait, lorsqu'on regarde le texte en grec, il utilisait le mot Petros, qui veut dire Pierre, le prénom de l'apôtre. Il lui dit « Tu es Petros », mais en faisant un jeu de mots, « Moi je vais bâtir l'église sur Petra, cette révélation de qui Jésus est, cette annonce de l'évangile. » C'est là-dessus qu'est bâtie l'église, c'est pas sur la personnalité instable de l'apôtre Pierre, aussi grand homme de Dieu et put-il être. Venir un peu sur l'expression « les extrémités de la terre », on pense que pour David, le centre du monde, c'était le temple à Jérusalem. Et là, il était éloigné parce qu'il fuyait son fils Absalom, il était près des contrées païennes. Et pour lui, c'était le bout du monde, on dirait aujourd'hui. Il avait un sentiment de grande solitude et de grande faiblesse. Et il avait besoin, il le sentait bien, d'un rocher qui est une place, un endroit de stabilité, de sécurité, qui peut résister aux tremblements de terre, aux vagues qui le frappent. Ça nous rappelle bien sûr la parabole de Jésus qui disait qu'il fallait construire sa maison sur le rocher et non pas sur le sable. Et il fallait un rocher qui soit plus haut que lui. Il fallait quelque chose qui soit au-dessus de sa propre sagesse, de ses propres capacités, de ses propres ressources. Et une chose remarquable, c'est qu'il savait qu'il ne pouvait pas arriver tout seul à ce rocher. Il avait besoin que Dieu le guide, le conduise sur le rocher. Il n'était pas capable de trouver cette endroit stable par lui-même. Et donc c'est intéressant de bien le noter et de réaliser aussi que peut-être nous n'avons pas les mêmes circonstances que David, mais il suffit de peu de choses pour nous retrouver dans des circonstances qui nous dépassent. Ça peut être le décès d'un être cher qui nous désole complètement, qui nous renverse, qui nous enlève tout espoir de vie heureuse. C'est aussi lorsque on a plus de ressources, que quelqu'un nous trahit, qu'on perd son travail, qu'on nous annonce une maladie mortelle, qu'on nous dit peut-être qu'on a le Covid et on se demande si on va survivre. Quelles que soient vos circonstances, un jour arrive où notre cœur est débordé, notre cœur est abattu. Si vous vous dites « Ah non, moi ça ne m'est jamais arrivé », je peux vous garantir, faites attention, un de ces quatre, vous allez vous retrouver dans ces circonstances. Ce n'est pas pour vous souhaiter du malheur, mais c'est pour faire face à la réalité. Nous vivons dans un monde où nous avons des tribulations. Mais Jésus est plus fort que cela. Et donc ces expériences nous limitent nos capacités et nous pouvons nous aussi faire cette prière à Dieu. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Jésus en effet est plus élevé que moi en raison de son origine divine. Il est plus élevé que moi en raison de son obéissance parfaite au commandement du Père. Il est plus haut que moi parce qu'il a souffert de façon suprême. Et enfin, il est plus haut que moi parce qu'il est monté au plus haut des cieux et qu'il est assis à la droite du Père. Versets 4 à 6. David se rappelle que Dieu a déjà répondu à ce genre de prière dans le passé. Il a déjà fait l'expérience de ce que Dieu était un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Une tour, c'est un endroit de force par rapport à l'ennemi qui nous assiège. Il a fait cette expérience et il se rappelle. Il voudrait ne jamais oublier ces choses parce que le souvenir de l'aide passée est une façon de se donner du courage pour le moment de combat présent. C'est une sorte de confiance présente qui est basée sur la fidélité passée de Dieu envers nous. Je sais que personnellement, j'ai des fois manquer de foi en oubliant ce que Dieu avait fait dans le passé. De façon pratique, lorsque nous avions acquis plutôt les locaux pour l'église, il y avait un temps où on louait ces locaux et on avait pu obtenir des dons de différentes personnes, différentes églises qui nous avaient permis de l'aménager. Et puis le moment était venu où le propriétaire nous avait dit qu'il voulait vendre ces locaux et qu'il nous donnait la priorité si nous voulions les acheter. Alors il fallait pour cela trouver des fonds, soit en passant par les banques, soit en passant par des dons. Et là, je dois dire qu'à ma grande honte, que je me disais que oui, Dieu avait pourvu de quoi louer, de quoi faire les travaux qui avait aménagé l'église pour l'utiliser, mais que de là à pouvoir acquérir ces locaux, c'était quelque chose d'impossible. J'avais oublié qu'il avait été généreux, très généreux dans le passé, et j'étais tombé dans l'incrédulité. Je manquais de confiance, et en me rappelant ce qu'il avait fait, j'ai commencé à prier, et le Seigneur a pourvu, là encore, de façon spectaculaire, de façon miraculeuse. Et nous avons pratiquement fini l'acquisition de ces locaux quelques 15 ans après. C'est toujours bon de se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé pour confronter le présent. Au verset 5, David exprime le désir d'habiter éternellement dans la tente, d'être dans la présence de Dieu, pour se réfugier sous l'abri de ses ailes, qui nous rappelle le psaume 17, verset 8. C'est être dans le tabernacle, étant en directe communion avec Dieu, c'est ce qu'il souhaite. Et c'est ce qui lui donne confiance pour le futur. Au verset 6, il dit: Oui, c'est toi, ô Dieu, qui écoute mes vœux. Donc là, il a conscience que Dieu non seulement l'entend, mais qu'il l'écoute et qu'il lui donne l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Il en a fait l'expérience dans le passé, il l'affirme comme une vérité présente, qui va aussi être une vérité future. Il renforce sa résolution de prier en se souvenant de ce que Dieu a déjà fait. C'est une leçon très importante pour nous tous. Dans les versets 7 et 8, David passe à sa génération, à la génération de David. On sait que Dieu avait promis à David des descendants pour toujours, sachant que c'était aussi par lui que passait la descendance du Messie, que Jésus-Christ était comme un David qui régnait de génération en génération. C'est là qu'on voit, non seulement il peut demander avoir des jours ajoutés à sa vie, mais que ses années aillent jusqu'à toujours, par la descendance en Jésus-Christ, qui aura toujours quelqu'un sur le trône de David, qui sera cette personne sur le trône de David pour l'éternité, qu'il siège éternellement devant Dieu. Preuve qu'on a vraiment, là on est passé d'une dimension historique et présente à une dimension prophétique. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Une longue vie, c'était un signe de bénédiction. Et il invoque aussi la bonté, la fidélité. On pourrait dire la miséricorde, c'est le mot chesed qui est traduit, qui correspond à l'amour agapé du Nouveau Testament et à la fidélité ou la vérité de Dieu, sa parole. On vit dans un monde de fake news et qu'il est tellement bon de savoir que il va y avoir un monde fait d'amour agapé, de vérité. Quelqu'un dit que l'amour agapé et la vérité sont comme les soutiens de son trône. Et donc l'idée, c'est un peu comme une salutation, comme on dit que la reine vive longtemps, c'est que oui, que sa bonté, sa fidélité veille sur lui, parlant de Christ, l'héritier de David. Et puis finalement, au verset 8, on arrive un peu en apothéose, dans la louange. Alors je chanterai sans cesse ton nom, je te célébrerai, je me glorifierai de ton nom, je penserai à toi, je crierai sur les toits, je serai dans le bonheur en pensant à toi et en te célébrant, et aussi en accomplissant chaque jour mes vœux. Ça, je pense que ça fait allusion à notre service chrétien. David s'était engagé à servir Dieu et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons respecter notre alliance avec Dieu, de pas oublier. Et jour après jour, nous devons être fidèles à servir, à aimer Dieu, à aimer notre prochain, à répandre la parole, à montrer notre amour par des actes et non pas seulement par des paroles. Donc, ce très beau psaume est un psaume qui doit nous encourager si nous passons par des épreuves qui nous semblent insurmontables. Nous devons nous rappeler de prier où que l'on soit. Il le faisait des extrémités de la terre. Nous pouvons nous adresser à Dieu. Il peut nous entendre et nous écouter si nous attendons à sa réponse, à son exaucement, qui peut être un exaucement négatif en disant non, pas maintenant, ou non, pas ça, ça serait pas bon pour toi. Une attente ou une réponse négative sont aussi des réponses à nos prières. Donc, de savoir que on peut prier et fonder notre prière sur le rappel de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Ça, c'est très important aussi. Les versets 4 à 6. Et puis, susciter la confiance en rappelant les promesses de Dieu pour un trône qui dure éternellement, que la bonté, la fidélité lui appartiennent et qu'on peut faire entièrement confiance à Dieu. Et puis, l'étape naturelle qui vient après cela, c'est la louange. Et combien de fois David commence dans une espèce de désespoir et en s'adressant à Dieu, rien que dans la prière, il se réconforte. Entre parenthèses, il y a une petite remarque intéressante. Dans le chapitre 62, qu'on a rapidement évoqué, donc au psaume 62, j'ai mentionné ces deux versets. Il y a... Alors, je me tourne... qui parle de l'espoir qui est le nôtre quand on l'a placé en Dieu. Au verset 2, il disait: oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Et puis, si on continue dans le psaume, au verset 6, il dit: oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Donc on est passé du verset 2 où il se disait: je ne vais pas être trop ébranlé, je ne vais pas être trop bousculé. Et la confiance vient, il a fait une pause en pensant à Dieu et à sa puissance. Et au verset 6, il dit: oui, je ne serai pas ébranlé, je ne serai pas du tout bousculé. Et de la même façon, lorsque nous passons par des épreuves, nous avons ce sentiment de désespoir. Et si nous pensons à Dieu, si nous nous adressons à lui, alors la confiance revient au point où nous pouvons le louer. Et je ne connais pas vos circonstances présentes, mais je sais, j'en connais quelques-uns qui sont passés par des épreuves terribles, qui sont peut-être encore en train de lutter avec quelque chose qui semble les dépasser. Des extrémités de la terre, ça peut être Nice, ça peut être Cannes, ça peut être Saint-Martin de Vésubie. On peut crier à Dieu et lui demander de nous conduire sur le rocher qui est trop élevé pour nous et nous attendre à sa bienveillance. Alors pour terminer, je reviens aux enfants à la montagne et à ce rocher que j'avais vu, qui m'avait inspiré de rechercher le passage en question, le psaume 61. Vous savez que le 2 octobre, il est tombé des tonnes d'eau sur les vallées, et notamment celle de la Vésubie, et pratiquement une demi-tonne d'eau par mètre carré, ce qui fait un volume d'eau incroyable, descendant, dévalant de toutes les montagnes que l'on parcourt lorsqu'on monte, faire des randonnées, que l'on descend, et un entonnoir d'une puissance qui a fait exploser le pont de la Maïssa, et le rocher qui me semblait beau et grand, en fait, il a été complètement balayé. Il n'était même plus là, Par contre, il y avait un autre rocher très grand qui était juste à côté de la cuve de propane. Et celui-là, notre surprise a été grande lorsque nous sommes montés pour la première fois avec Mathias et Laurence, et que nous avons vu en fait que et Thomas, on a vu que le rocher avait été basculé. Et j'ai dit, mais c'est impensable, la cuve était pratiquement bâtie sur le rocher qui était inébranlable. Et en fait, en regardant de plus près, on s'est aperçu que le rocher, aussi gros est-il pu paraître, n'était en fait posé que sur des alluvions, du sable pratiquement. Et en fait, le ruissellement torrentueux, incroyable de la rivière pendant toute une nuit a fait que le sable et les éléments ont été délogés. Et à ce moment-là, le rocher a basculé. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire spirituellement? Et pour moi, c'est peut-être les fois où on pense que on s'accroche ou qu'on se repose sur Dieu, mais en fait, on pense qu'on est bâti, qu'on fonde notre vie sur Christ, mais peut-être qu'en fait, on n'est pas vraiment connecté à Christ. On n'est pas branché sur le lit rocailleux profond dans la terre qui peut nous assurer la sécurité. On est peut-être attaché à Christ par l'intermédiaire de l'Église, par l'intermédiaire de culte, par l'intermédiaire de tradition. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on soit vraiment en communion avec lui. Et donc ça, c'est ma prière pour nous tous, que nous recherchions une communion profonde, réelle, vivante, avec le descendant de David, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle parle à nos cœurs et toi, tu veux nous encourager, tu veux nous fortifier. Seigneur, tu vois que beaucoup d'entre nous, et moi inclus, passons par des moments difficiles où nous demandons à quoi bon travailler, à quoi bon faire certaines choses. Seigneur, merci de nous fortifier et de nous aider à crier vers toi, toi le rocher trop élevé pour nous. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen.